Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des bonus audio accessibles quel que soit le niveau d'abonnement. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 44e épisode, je reçois Marianne Bretel, qui est une professionnelle de la petite enfance depuis 20 ans et est accompagnante parentale aujourd'hui. Je l'ai connue grâce à Rokia, dont on parle dans l'épisode et que j'ai interrogé sur l'acquisition de la continence chez les enfants dans l'épisode 33. Avec Marianne, on parle du change des bébés, du matériel à avoir à disposition pour que ce soit plus facile, de positions physiologiques et de couches en tout genre. Elle a fait un grand comparatif des couches jetables et écrit un guide sur les couches lavables que vous pouvez vous procurer sur son site internet. Elle nous partage dans cet épisode ses résultats, ses marques chouchous et toutes ses astuces pour utiliser les couches lavables. Et vous verrez que ce n'est pas si compliqué, mais qu'il n'y a aucune obligation. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Marianne.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci à toi de m'avoir invitée surtout.
Avec toi, on va parler du change des bébés. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, un petit peu ton parcours et quel est ton métier, s'il te plaît?
Alors, donc, je suis Marianne Bertrel. Je suis accompagnante parentale, professionnelle de la petite enfance depuis bientôt 20 ans. J'ai été successivement ludothécaire, puis gérante d'une agence de garde d'enfants à Paris, et ensuite assistante maternelle, enfin, garde d'enfants à domicile aussi, et puis directrice d'une crèche Montessori et éco-responsable pendant plusieurs années. Et là, depuis que j'ai eu mon deuxième enfant, j'en ai maintenant trois, je suis maman de trois enfants, j'ai repris une activité qui me permettait d'être un petit peu plus à la maison et d'aménager mes horaires de façon à ce qu'ils soient un peu plus souples. Et du coup, là maintenant, voilà, je suis accompagnante parentale, en quelque sorte auxiliaire de puériculture en libéral.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, la première question, c'est une question qui est assez large, mais je pense que c'est important, en particulier pour les futurs parents qui n'ont pas encore eu le bébé. Qu'est-ce que c'est que le change d'un bébé? Qu'est-ce qu'on entend par là et en quoi ça consiste?
Alors, le change d'un bébé, tel qu'on va l'entendre et tel qu'on va s'y intéresser aujourd'hui, ça va être de changer la couche du bébé, mais pas seulement, ça peut être aussi lui changer ses vêtements, et lui faire des toilettes aussi de différentes façons. Voilà, mais là, le change qui nous intéresse principalement, je pense, aujourd'hui, c'est le change de la couche, en fait.
Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi c'est important qu'on se pose des questions à ce sujet? Parce qu'on a l'impression, quand on dit comme ça, que bon, ben, ça va aller, c'est juste qu'il faut changer la couche et puis c'est fini. En fait, c'est quand même une étape qui est importante dans la vie des bébés. Et donc, c'est important de pouvoir l'accompagner aussi comme plein d'autres étapes de la vie des bébés.
Alors, il me semble que ça va être important de l'accompagner, notamment sur deux points en particulier. Ça va être l'aspect physiologique, de respecter la physiologie de l'enfant et son intégrité physique au moment du change. Et ça va être aussi l'aspect communication, de en fait l'aider certainement comme je crois que tu as déjà fait un épisode d'un podcast avec Rokia, Miss Psychomote,
Tout à fait.
concernant l'incontinence et le voilà l'apprentissage de la propreté comme on l'appelle communément. Et donc du coup la communication à ce moment-là sur les éliminations de son enfant et ce qu'on en fait, est-ce que ça devient, est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, et ben quelque part c'est aussi très important, et ce depuis le plus jeune âge.
Ok, donc dès tout petit, on commence à leur parler de tout ça à nos bébés. Même si on
Eh
a
ben oui.
l'impression qu'en fait, il se passe rien pour eux. C'est vrai que quand on a un nouveau-né, par exemple, on se dit bah, c'est fait partie des choses dont on ne parle pas à son enfant, parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien pour lui à ce moment-là.
Bah, oui, ça fait partie des choses dont on ne parle pas parce que c'est considéré souvent comme sale, hein, le caca, le pipi, c'est sale. C'est quelque chose dont on a envie de se débarrasser. En tant que parent, c'est souvent c'est parfois pas le meilleur moment à partager avec son enfant. Et pourtant, c'est quand même très important, surtout qu'on a tous très envie que nos enfants se débarrassent de leur couche assez rapidement. Et on se rend compte qu'en fait, plus on va communiquer avec son enfant sur ses éliminations, plus ça va être facile pour lui de prendre conscience de tout ce qui se passe dans son corps et de ce que deviennent les aliments qu'il ingère, et comment aussi contrôler tout ça, même s'il y a un aspect maturation des muscles, des sphincters sur lesquels on ne peut pas vraiment faire grand-chose, mais on peut quand même voilà, beaucoup communiquer et entraîner aussi l'enfant à pas forcément éliminer toujours dans une couche.
Ok. Alors, avant de parler un petit peu physiologie, parce qu'effectivement, il y a plein de questions là-dessus, est-ce que tu peux juste nous expliquer sur quoi on change un bébé, pourquoi la table allongée est un avantage ou un désavantage d'ailleurs? Est-ce que c'est le meilleur dispositif pour changer un bébé? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait à proximité pour que ça se passe bien? Parce que clairement, quand on a son enfant, les fesses à l'air, c'est pas le moment d'aller chercher le coton qui est dans le placard à 3 mètres.
Alors, la table à manger, oui, on va dire que jusqu'à ce que son enfant se tienne debout tout seul, ça va être surtout un très bon allié pour le dos des parents et le dos des professionnels. Parce que c'est vrai que dans l'idéal, je sais qu'il y a même une marque là que je ne citerai pas, mais récemment qui s'est lancée dans la fabrication de tables à manger au sol. C'est un meuble très bas qui va permettre à l'enfant, dès qu'il va se déplacer à quatre pattes, en fait, et puis c'est de s'y rendre tout seul, mais aussi c'est plus sécuritaire parce qu'on se dit que si l'enfant roule, voilà, il n'y a pas de risque de chute pour le bébé qui roule à côté d'un plan qui est en fait à peu près 10 cm du sol. En revanche, pour le dos des parents, quand on change, je sais que par exemple, moi en ce moment, j'ai deux enfants de moins de 2 ans, donc deux enfants qui utilisent des couches. Les moments où ils ne sont pas accueillis à l'école ou chez la nounou, je vais faire environ 10 changes par jour, parfois. Et donc, du coup, le fait de le faire au sol, pour moi, ça va quand même être contraignant physiquement et pour les professionnels de la petite enfance aussi. Donc, la table allongée en hauteur, c'est quand même assez confortable pour le parent. Et puis, à partir du moment où il tient debout, on va pouvoir commencer à faire des changes debout. L'enfant va pouvoir commencer à participer, enlever par exemple lui-même sa couche pour la mettre à la poubelle ou la mettre dans le panier à linge si c'est une couche lavable. Et puis éventuellement même s'essuyer tout seul à partir de, surtout quand il n'y a pas de caca, quand il n'y a que de l'urine, on peut quand même envisager à partir du moment où l'enfant a... Et à environ 15 mois, on va dire en moyenne, qu'il tient debout, qu'il arrive à mettre un petit gant sur sa main et puis pouvoir se frotter les endroits à nettoyer, alors il peut tout à fait se nettoyer tout seul.
D'accord.
Au niveau de l'équipement, j'ai donc ma petite liste parce que je ne voulais rien oublier. Donc, j'ai pris ma petite liste qu'on retrouve dans mon livre. Donc. Pour être opérationnel et ne pas avoir à se déplacer quand on est en plein change de bébé, on peut prévoir donc des couches, éventuellement des voiles de protection quand on utilise des couches lavables, des lingettes lavables ou des gants de toilette, du coton. On peut également avoir un savon. Moi, je préconise toujours le change avec du savon. C'est pas forcément nécessaire d'avoir autre chose que de l'eau et du savon. Donc, j'ai aussi un flacon avec de l'eau dedans. Éventuellement, un bac de stockage pour les couches sales ou une poubelle pour les couches souillées jetables. Et puis, les éventuels petits soins qu'on peut apporter quand il y a des érythèmes. Donc, moi, mes deux chouchous dans ce secteur-là, c'est l'argile et puis le macérat de calendula dans de l'huile.
D'accord, ok. Tu parlais du stockage des cotons ou des couches lavables. Est-ce que dans ces systèmes de stockage, il faut y mettre quelque chose, des huiles essentielles, des choses comme ça, pour que les microbes qui vont rester là-dedans ne prolifèrent pas, ou est-ce qu'ils peuvent rester 2-3 jours dans un bac de stockage sale, comme du linge sale classique?
Alors, moi, dans mon quotidien, j'avoue que je n'y pense pas. Bah, donc, je ne le fais pas forcément, ça reste okay. 2 jours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai 2 enfants en couche en ce moment, donc ça reste 2 jours et il faut faire les lessives tous les 2 jours. Mais sinon, on peut mettre un petit chiffon avec ou un petit gant de toilette ancien qu'on n'utilise que pour ça, avec 2-3 gouttes d'huile essentielle de titri ou de lavande éventuellement dans le fond du seau de couche lavable. Ça permet d'assainir un peu et de limiter les mauvaises odeurs. Cela dit, je trouve que l'odeur dégagée par le seau de couche sale est moins pénible qu'une odeur dégagée par une poubelle de couche jetable.
Ça marche. On va parler un peu physiologie. Alors, dans le réel des familles, la position qu'on utilise le plus pour changer les couches, c'est d'allonger son bébé et de le tenir par les pieds et de lui soulever les fesses. J'ai fait ça pendant des années et j'ai appris a posteriori qu'en fait, c'était pas du tout physiologique pour les petits. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les bébés et comment on fait pour changer une couche de manière la plus physiologique possible pour eux?
Concrètement, c'est un peu comme prendre un enfant au-dessus, enfin par les aisselles. Quand il est tout petit, un nouveau-né, on essaye d'éviter de le porter par les aisselles. On va plutôt lui mettre une main au-dessous de la nuque et au-dessous des fesses. Ben là, de la même façon, on va éviter de le pendre par les pieds, parce que ça va appuyer sur son ventre, sur son sternum, et puis du coup, ça peut provoquer du reflux, notamment pour les enfants qui souffrent de reflux. Pour eux, c'est une position assez inconfortable d'être les pieds en l'air. Donc, on va préférer les faire rouler sur le côté. Donc, en fait, on peut enlever la couche en essuyant avec l'intérieur de la couche, comme on fait s'il y a du caca. Et puis on va la passer en dessous en faisant rouler l'enfant sur le côté. Et puis pour nettoyer, on va pareil faire rouler les petites fesses d'un côté et de l'autre pour bien tout nettoyer. Et après, pour mettre la couche propre de la même façon, on peut le faire rouler plutôt que de le soulever. Mais cela dit, au quotidien, quand il y a une grosse selle bien débordante, eh bien parfois, il ne faut pas non plus se culpabiliser si on est obligé de soulever de temps en temps les pieds de bébé pour pouvoir nettoyer un peu, parce que parfois, entre la théorie et la pratique, ce n'est pas toujours facile.
On est bien d'accord. À partir d'un certain âge, on en a un peu discuté tout à l'heure, les enfants, ils commencent à bouger pas mal, et en particulier au moment du change. Comment on fait pour que ça se passe le mieux possible à ce moment-là où ils ont juste envie de courir partout au moment où il y a tout le caca qui colle et qu'il faut tout nettoyer?
Bah, alors, c'est vrai qu'il y a une période un peu sensible, qui est quand même relativement longue, hein, parce que je l'estimerais d'environ 8 mois jusqu'à 2 ans. donc, voilà, je pense que c'est quand même une longue période un petit peu qui peut être un petit peu compliquée pour convaincre l'enfant de participer au change. Et au départ, on a envie de dire même de se laisser faire pour que ça aille plus vite, mais lui, il comprend pas vraiment trop. S'il est dans une couche souillée et que ça le dérange pas, il va préférer continuer à jouer souvent plutôt que de venir changer sa couche. Et justement, c'est en le faisant participer à ce moment-là qu'on va réussir à susciter son intérêt, parce que du coup, le moment devient un jeu et donc fait partie d'un moment agréable. On va justement échanger, partager, même, j'ai envie de dire, même rigoler sur le thème du caca et du pipi. Ça fait partie du fait de rendre le moment agréable, et je pense qu'il ne faut pas s'en empêcher. Il faut au contraire faire passer ce moment-là comme ça. Cela dit, encore une fois, entre la théorie et la pratique, eh bien, c'est pas toujours facile de mettre tous ces jolis préceptes en place. J'ai envie de dire que il y a des moments où c'est aussi un moment où l'enfant va être en recherche de limites et en recherche des règles. Et je ne sais pas pour tous les parents qui nous écoutent, mais moi, en tout cas, la règle chez moi, à partir d'un moment, c'est que mon enfant ne reste pas dans son caca pendant plusieurs heures et que donc, si il y a un moment où je dois un petit peu me positionner plus fermement et expliquer que si on va aller changer la couche, alors je le fais aussi.
C'est important de rappeler qu'on a aussi le droit de dire à un moment donné « Non, mais là, ça suffit. »
Voilà, exactement. Ben oui, parce que nos enfants, surtout autour de ces âges-là là, dont on parlait, où c'est une période un petit peu plus compliquée, autour de 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, ils vont être dans la recherche aussi des limites et dans la recherche de savoir ce qui est peut-être sale ou propre aussi. Et donc, du coup, ou agréable et désagréable. Et donc, c'est à nous aussi parfois de nous positionner pour leur faire comprendre que, eh bien, si, moi, je suis ton parent, j'ai envie que tu sois bien, j'ai pas envie que t'aies les fesses toutes rouges. Et donc, là, maintenant, j'ai décidé que c'était le moment d'aller changer la couche. Et donc, on va y aller.
Et tu peux choisir un livre, si tu veux, à regarder pendant ce temps-là, mais on va changer la couche.
Exactement aussi, c'est ça. Détourner, attention.
Tout à fait. On va parler un petit peu des couches. Il en existe plein, des lavables, des jetables, des bio, des pas bio, des formes différentes et avec des systèmes d'attache différents. Toi, tu as fait tout un guide sur les couches, en particulier les couches lavables. Tu as étudié le sujet très en détail, donc tu vas essayer de nous éclairer un petit peu. Selon toi et selon tous les tests que tu as pu faire, quelles sont les meilleures couches en termes de praticité, de prix, de matière qu'on met sur les fesses de nos bébés? Suivant ces différents critères, qu'est-ce qui est le plus adapté?
On va commencer par la jetable, parce que c'est quand même encore les couches que la grande majorité des parents utilisent la plupart du temps. En couche jetable, vous retrouverez sur le site qui est lié à mon livre. Donc, c'est guide-couches-lavables-pluriel.fr. Vous retrouverez là un comparatif que j'ai fait sur les couches jetables. Alors, j'ai contacté des dizaines de marques. J'ai étudié tous les sites internet, les paquets, les compos. Donc, j'ai fait vraiment un comparatif très large qui prend en compte à la fois La provenance des matières, des matières premières, le lieu de fabrication, le prix, les compositions, la transparence de la marque sur les compositions, sur les labels éventuels que la couche a obtenus, ouais, la transparence, je dis aussi la communication avec moi parce que du coup, très peu de marques ont. Enfin, il y a une seule marque qui a accepté de répondre entièrement à toutes mes questions de façon transparente. Sinon, elles ont toutes répondu un peu de façon détournée sur certaines questions, notamment de la provenance des matières et de la composition exacte
D'accord.
des gels absorbants, par exemple, qui sont à l'intérieur des couches. Et puis, ben voilà, j'ai pris vraiment tous ces critères-là. Et du coup, j'ai fait ressortir une marque en particulier, qui est la marque Les Petits Culottés, qui sont des couches qui sont fabriquées en France, qui sont donc en circuit court, parce qu'elles passent directement du lieu de fabrication au domicile des parents. En fait, ce sont des couches qui sont vendues avec un système d'abonnement. Mais on peut tout à fait, comme moi par exemple, j'en commande parce que oui, j'utilise des couches jetables de temps en temps. Et du coup, quand je fais une petite commande, comme évidemment, moi, j'ai pas besoin de la quantité d'un mois que va utiliser la personne qui est que en couche jetable, du coup, j'active une commande, je la reçois chez moi et je la mets sur pause jusqu'à plusieurs mois après où je la réactive pour recevoir de nouveau quelques couches. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va commander un minimum de couches. Donc, c'est vraiment cette marque-là que moi, je recommande pour nous en France. C'est vraiment celle qui va être la plus naturelle, dont la composition va être la plus naturelle possible, même si, bah, c'est sûr, hein, persistent quand même des éléments issus de la pétrochimie. Mais ça, pour l'instant, aucune marque n'a réussi à faire une couche 100% compostable, on va dire 100% naturelle.
Tu parlais des compositions tout à l'heure et de la transparence des marques. Ça veut dire que les marques, elles n'ont aucune obligation de transmettre l'ensemble des composants de leur couche?
Eh bien non, malgré le travail fourni par une association de consommateurs, hein, c'était 60 millions de consommateurs qui avaient fait, UFC-Que Choisir aussi, a déjà fait des sujets sur les couches lavables. Malgré voilà, ce travail-là, les fabricants de couches jetables ne sont toujours pas tenus de noter les compositions exactes de leurs produits. D'ailleurs, voilà, il y a des couches très bas de gamme et dont on ne sait même pas où elles sont fabriquées, ni si elles ont été testées. Voilà, il n'y a pas d'obligation ni de donner la composition, ni d'être transparent sur des éventuels tests pour retrouver des éventuelles traces de produits cancérogènes comme le glyphosate ou voilà ce genre de produits toxiques, quoi. Ce que je trouve toujours très malheureux, c'est qu'on va retrouver, j'ai encore eu le cas l'autre jour, voilà, sur un emballage de couches, il y avait écrit 100% naturel. Et donc, en fait, c'était écrit après en petit que c'était le voile qui était en contact avec les fesses de bébé ou la cellulose, là en l'occurrence, qui était 100% naturelle. Oui, heureusement que la cellulose, c'est du bois, c'est 100% naturel. Mais la couche, elle est loin d'être 100% naturelle.
Est-ce que les labels bio, c'est une première indication de la qualité des produits ou pas du tout? Est-ce qu'on peut se fier à ça si on veut faire un premier tri ou pas du tout?
Non, pas forcément. D'ailleurs, je pense qu'aucune marque de couche jetable, il faudrait que je vérifie, n'a l'autorisation d'écrire bio sur son paquet. Il n'y aura
D'accord.
jamais écrit bio. Parfois, il y aura écrit éco-responsable. Mais comme je l'indique dans mon livre, je ne vois pas en quoi un produit qui va utiliser des litres et des litres d'eau pour sa fabrication, faire des milliers de kilomètres plusieurs fois et finir à la poubelle au bout de 3 heures d'utilisation serait écologique. Mais on va quand même pouvoir essayer de se fier au label. Donc, par
D'accord.
exemple, s'il y a le label FSC, ça veut dire que le bois utilisé pour fabriquer la cellulose vient de forêts durablement gérées. Donc, ça vient toujours du même endroit. Ça vient d'un pays nordique. Là, je crois, c'est la Finlande. Je crois qu'ils ont tous ceux qui ont ce label-là en Europe se fournissent là-bas. Après, il va falloir vraiment vérifier les labels parce qu'il y a des labels qui peuvent être créés de toutes pièces par des lobbies qui vont avoir tout intérêt à créer des jolis petits tampons qu'on va mettre sur un produit et en fait qui voudra rien dire quoi. En fait, après, ça s'appelle du greenwashing, hein, comme on dit maintenant.
Donc, c'est quand même assez difficile quand on n'est pas professionnel de s'y retrouver. Et donc, c'est important d'avoir des gens comme toi qui font des comparatifs pour qu'on puisse un peu savoir ce qu'il en est.
Ben voilà, du coup, sur mon site internet, vous avez le tableau qui est tout fait. C'est des jours de travail. Hop, vous avez pour 30 secondes à checker tout ça.
Ok, ça marche. Donc ça, c'était pour les couches jetables. Pour les couches lavables, est-ce que c'est pareil? Il y a des marques qui sont à privilégier?
Mes chouchoutes, maintenant, sont des marques françaises parce que oui, maintenant, on a la chance d'avoir de nombreux fabricants et créatrices de couches lavables qui font des beaux produits qui ne sont pas forcément plus chers que d'autres produits fabriqués en Chine. Il y a aussi, il faut faire attention quand vous allez sur des sites qui vous vendent des couches lavables. Il faut vraiment être vigilant parce qu'on peut trouver vraiment de très mauvais produits, que ce soit dans la qualité, dans les compositions, parce que pareil, il y a des matières qu'on va éviter. Il y a des façons aussi, des teintures, des choses comme ça qui peuvent être utilisées, qui ne sont pas forcément meilleures que les couches jetables pour le coup. Donc, quand vous allez tomber sur un site de couches lavables, je vous invite vraiment à aller farfouiller pour voir si vous trouvez l'endroit où sont fabriquées les couches. De toute façon, si c'est fabriqué en Europe, en général, les marques le mettent bien en avant. C'est écrit en gros. Si c'est écrit nulle part, c'est louche. Et puis, ce n'est pas parce que la marque va avoir soi-disant un nom bien français qu'elles vont être fabriquées en France. Donc voilà, faites attention, contactez la marque si vous avez un doute pour voir déjà dans quel délai ils vous répondent. Parce que, alors, il y a des marques françaises qui font fabriquer en Chine, pour moi, de mauvais produits. Et il y a aussi des marques, on va dire, éphémères, au nom bien français, qui vont eux faire ce qu'on appelle du dropshipping et qui vont donc acheter des couches à 2, 3, 4 euros sur des sites bien connus de grosses distributions chinoises et qui vont les revendre 10 ou 20 fois le prix sur Internet.
Ça marche, donc on fait attention à ce qu'on achète.
Alors, dans les fabricants qui fabriquent donc à plus grande échelle et donc on va trouver des produits de qualité qui sont souvent faits à la main, on va avoir évidemment la fameuse Hamac, on va avoir Mon Petit Paquet, on va avoir Petit Dessous. On va avoir la marque Happy Afrique qui n'est pas française, qui est franco-sénégalaise, mais principalement quand même sénégalaise, qui est une marque éthique fabriquée au Sénégal, que moi j'adore. Et puis après, pour toutes les créatrices. Alors, désolée les copines si j'en oublie, mais il va y avoir Beau Potin, Woulili, on va avoir Première Étape. On va avoir Lilu Popotin, Lulu Nature, Le Monde des Lots qui fait des shorties en laine. On va avoir, allez, Cadence aussi, les marques françaises. Voilà, en tout cas, on en a plein.
Oui, il y a quand même du choix.
Voilà, on en a beaucoup et elles font toutes des modèles très différents les uns des autres. Vous allez trouver vraiment plein, plein de choses et pas forcément plus chères que sur des gros sites, parce que le truc, c'est que sur les gros sites, vous allez trouver des couches qui vont avoir une durée de vie limitée, vous allez être obligé de tout racheter au bout de 6 mois, 1 an, alors que si vous achetez des bons produits de bonne qualité, vous allez pouvoir garder ça pour 1 ou 2 enfants, même parfois 3, voilà, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus de sous au départ.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix de combien ça coûte de s'équiper en lavable pour la durée? On va parler pour un enfant de 0 à 3 ans à peu près, qui est la fin des couches. Et combien ça coûte en jetable?
Alors, les couches jetables, c'est en moyenne 25 centimes la couche. Et puis, les couches de meilleure qualité sont forcément un petit peu plus chères que ça. On va dire que j'ai noté une dépense moyenne par enfant en couches jetables qui est de 1 625 €. Sachant que ça, c'est si votre enfant est continent à l'âge de 2 ans et demi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm-hmm. Ça peut être un peu avant parfois si vous êtes des petits vélards. Et puis, en concernant les couches lavables pour un enfant, on va en avoir pour à peu près 800 euros pour l'équipement, les frais électricité, eau, produits lessiviels et puis accessoires divers. Donc 800 euros, ça c'est pour un enfant, sachant que du coup à partir de deuxième, et ben c'est plus que l'eau, l'électricité, les produits et les accessoires. Et donc là, on va être plutôt autour de 150 euros par enfant. Alors qu'on a toujours 1625 euros pour les autres enfants en jetable.
Tout à fait, ça marche. Il y a une vraie différence de prix entre les deux, clairement. Tu parlais du coup des différentes marques de couches lavables. Est-ce qu'elles ont des formes différentes, des fonctions différentes? Qu'est-ce qu'il existe comme type de couche et comment ça fonctionne pour les gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionne une couche lavable? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne?
Oui, il y a plein de modèles de couches différents maintenant. C'est très moderne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il va y avoir des modèles comme par exemple ce qu'on appelle les tout-en-un, donc qui sont des modèles très pratiques, hyper rapides à utiliser. Ça va être l'avantage de ce modèle-là. On va avoir plutôt des modèles qui s'appellent, enfin, ce sont des langes qui s'appellent des couches pré-plates. Alors là, on va être plus sur tout naturel, qui épouse parfaitement le gabarit du bébé, qui est très confortable, très souple, très doux. On va avoir des modèles tout en deux qui vont être très économiques parce que du coup, on peut changer que l'absorbant à l'intérieur de la couche. Donc, quoi qu'il arrive, les couches lavables, c'est toujours une partie imperméable et une partie absorbante. Parfois, elles sont cousues ensemble, parfois elles sont séparées, parfois la partie imperméable est en laine, parfois elle est en polyester, en pull imperméable, et puis les parties absorbantes, c'est pareil. On a aussi du naturel, du chanvre, du coton, ce genre de matière, ou du bambou, de la viscose de bambou, et puis on va avoir aussi de la microfibre. Voilà, moi, je suis plus partagée sur la microfibre pour les couches lavables. Je trouve ça vraiment dommage de partir sur du synthétique. Le seul intérêt qu'on va avoir à utiliser de la microfibre, ça va être le séchage hyper rapide. Et donc, par exemple, récemment, j'ai fait des ateliers à Paris. Et pour les Parisiens, j'avoue que vu la taille des logements, souvent, ça peut être une bonne solution parce qu'il faut que ça sèche vite.
OK.
Et puis tout à l'heure, tu me demandais si on pouvait faire une utilisation mixte. Totale, partielle, mixte, voilà. C'est comme l'allaitement, on fait ce qu'on veut. Si on veut faire des biberons et de l'allaitement, ça, on fait bien ce qu'on veut. Et ben là, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est vraiment une des premières raisons qui m'ont poussée à le faire. C'était de montrer à tous les parents qu'il est intéressant financièrement pour la santé de bébé, pour la planète et les déchets, limiter les déchets, d'utiliser ne serait-ce que partiellement des couches lavables. J'ai par exemple une copine qui utilise les couches lavables seulement le soir quand elle rentre de chez l'assistante maternelle avec son fils et le week-end. Voilà. Et donc, on avait calculé ensemble que rien que ça, ça lui faisait économiser 500 couches par an jetées à la poubelle. Et du coup, mais c'est génial. Donc, c'est déjà ça.
Oui, donc on n'est pas obligé de faire ça tout le temps. On n'est pas obligé d'imposer ça à son assistante maternelle si elle n'en a pas du tout envie. On n'est pas du tout non plus obligé de trouver une crèche qui est compatible avec ça si on n'en a pas autour de chez soi. On peut aussi faire du mixte et avoir des couches jetables quand on est à l'extérieur et des couches lavables à la maison ou ce genre de choses.
Voilà. Puis après, je pense que dans les crèches et chez les assistantes maternelles, les professionnels sont de plus en plus faciles à convaincre quand même. Et rien ne vaut une belle démonstration des couches. Et puis, en général, ils se rendent vite compte que ce n'est pas très contraignant, surtout qu'au final, qui les lave, c'est les parents. Donc, c'est assez facile maintenant de convaincre les professionnels. Il y a quelques petites astuces dans mon livre justement pour ça. Mais c'est vrai que si c'est trop compliqué, et que, voilà, on peut faire à la maison par exemple. Ou moi, je sais que j'ai tendance à utiliser de temps en temps les couches jetables pour la nuit. Quand les nuits sont compliquées, et oui, j'utilise une solution jetable parce que je sais que au moins l'effet est vraiment au sec. Et que du coup, on ne va pas avoir cette donnée-là qui va venir perturber un peu plus la nuit. Ou quand on part en week-end et qu'il n'y a pas de machine à laver sur place, et parfois, des couches de table, c'est quand même bien pratique.
Oui, c'est comme tout, on a le droit de donner des petits pots à son bébé quand on en a marre de faire des purées, on a le droit de donner des biberons.
Il y a ça aussi, ce qu'on oui, veut. C'est vrai, j'ai pris l'exemple de l'allaitement, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi.
Et est-ce que tu parlais justement des machines à laver et tout ça, est-ce que toi qui l'as pratiqué, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus contraignant en termes d'intendance ?
Du coup, en fait, moi je fais à peu près, donc je vous ai dit tout à l'heure, 2 enfants en couche lavable actuellement, je dois faire à peu près 2 lessives et demie, on va dire, par semaine, en plus que du linge habituel. Il est possible, il y a une technique qui existe pour pas faire plus de lessive quand on utilise des couches lavables. Il suffit en fait de mettre les couches sales en rinçage dans la machine et après d'ajouter le reste du linge. C'est tout à fait possible de fonctionner comme ça et du coup, ça ne fait pas forcément faire plus de lessive. J'ai calculé donc pour les besoins d'écriture du livre avec mon mari, on a fait des calculs très complexes pour réussir voilà, à savoir que quand on a un sèche-linge, ça prend à peu près 1/2 heure par semaine. Et quand on n'en a pas, ça prend à peu près 3/4 d'heure par semaine.
Ok, ça veut dire que ça passe au sèche-linge, les couches ?
Il y a des couches, certaines couches passent au sèche-linge. Et si c'est un de vos critères, alors il est assez facile de trouver des couches qui passent à 60 degrés et au sèche-linge. Et du coup, là, l'utilisation, alors ce n'est pas forcément la plus économique, mais l'utilisation est hyper pratique, hyper rapide.
Ok, ça marche. Une des grandes idées reçues qui est partagée sur les couches lavables, c'est de se dire que c'est plus sale, entre guillemets, pour les parents à changer, qu'on va en avoir partout, que du coup, il y a du caca qu'on va mettre à la poubelle, alors que finalement, on le met aussi à la poubelle avec des couches jetables. Mais comment ça fonctionne, cette histoire de quand il y a des selles dans ma couche lavable, il va falloir que je la lave avec le caca.
Alors non, pas du tout. Donc j'utilise depuis 6 ans maintenant des couches lavables et je vous garantis que à part petit glissement et certaines péripéties, je n'ai jamais mis les doigts dans le caca. Hein, ça ne m'arrive jamais. Je ne le ferai pas. Je ne gratte jamais non plus les couches. Hein. Il existe un magnifique petit voile en cellulose qu'on peut mettre au fond des couches lavables et qui permet de recueillir les selles pour les mettre directement à la poubelle. Je précise à la poubelle parce qu'on ne met pas le voile en cellulose dans les toilettes et qui permet voilà, de recueillir le caca sans du mettre les doigts dedans. Après, quand un bébé est allaité, là, voilà, petite astuce, quand un bébé est allaité exclusivement, là, pour le coup, on peut même y aller sans mettre de voile parce qu'on met directement la couche, même quand il y a du caca dedans, on la met directement dans le bac à linge sale et on la met à rincer et en fait, les selles de bébé allaitées sont hydrosolubles. Donc, ça part dans la machine sans boucher la machine ou quoi que ce soit.
Ok. Donc, finalement, pas plus d'accidents qu'une couche qui déborde sur un body et qu'il faut laver de toute façon.
Non, pas du tout. Et puis, parfois, il reste un petit peu quelques traces sur la couche parce que ça a débordé un tout petit peu du voile et auquel cas, ce n'est pas très grave. Par contre, c'est vrai que quand on utilise des couches, déjà, c'est bien d'entretenir sa machine à laver régulièrement, de faire des lavages vraiment à 90, à vide, avec du vinaigre et ce genre de produits. D'autant plus, on va peut-être le faire un petit peu plus quand on utilise des couches lavables que ou quand on utilise de la lessive faite maison, c'est la même chose.
Parce que ça encrasse, c'est ça?
Oui, voilà, le gras des lessives maison, quand on utilise de la lessive avec du savon, ça encrasse un petit peu la tuyauterie. Et puis là, voilà, c'est pareil, quand il y a un peu de sel régulièrement, c'est gras, les selles du bébé, c'est gras. Et donc, du coup, c'est bien de faire un bon nettoyage de machine régulière.
Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il me semblait avoir lu, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas, que la lessive maison faite avec du savon de Marseille n'était pas forcément très recommandée, que ce soit d'ailleurs pour des couches lavables ou pour des culottes menstruelles, parce que ça encrasserait les parties absorbantes. Est-ce que c'est vrai, ça?
Alors, c'est la lessive, si elle est faite avec du vrai savon de Marseille, si, c'est possible, parce qu'il n'y a pas de glycérine dedans. Donc, du coup, on peut se permettre d'utiliser les vrais lessives aux vrais savons de Marseille. Mais par contre, le reste des lessives avec du savon dedans, bah, c'est sûr qu'on va éviter. Et puis, toutes les lessives faites maison aussi, avec du lierre, par exemple, ou des cendres, c'est vrai qu'on va éviter quand même aussi parce que on va essayer d'avoir quand même quelque chose d'assez, d'assez décrassant. Pour le pipi notamment, et pour voilà, il faut quand même faire son entretien. Les couches au quotidien, ça s'entretient vers autour de 40 degrés. Et puis après, de temps en temps, il faut faire des petits lavages à 60 en enlevant les parties des couches qui ne supportent pas la haute température. Mais voilà.
D'accord. Parfois, les gens, ils ont peur que les couches lavables, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus grosses que les couches jetables. Et les gens, ils ont peur que ça empêche les bébés de bouger ou que ça perturbe la forme des jambes ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est plutôt une idée reçue?
Alors justement, c'est une idée reçue qui est totalement fausse. Les enfants qui ont des couches lavables, effectivement, ont des gros popotins. Hein, souvent, on les repère bien, ils ont des gros popotins. Et encore, pas forcément toujours, parce qu'il y a des marques qui sont assez fines, qui ont des systèmes d'absorption assez performants. Et du coup, ça se voit pas forcément. Mais ça ne perturbe pas du tout le développement moteur. Voilà, moi, j'ai observé maintenant un sacré paquet de bébés en couche jetable. J'en ai vu aucun avoir des retards moteurs liés à l'utilisation des couches lavables.
D'accord.
Et puis, pour les couches lavables qui prennent de la place, c'est surtout les vêtements serrés qui ne vont pas être compatibles avec l'utilisation des couches lavables. Et d'ailleurs, donc je pense que vous pourrez trouver facilement des vêtements plus amples. Et je vous recommande aussi l'utilisation des rallonges de body, le petit gigoteur.
Donc, ok, bon, ben super, merci. Je mettrai tous les liens et toutes les personnes que tu as citées, je mettrai les références dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, c'est très chouette, je suis ravie.
Eh ben merci à toi, ouais, c'est toujours super sympa.
Cet épisode touche à sa fin. Vous avez maintenant plein d'informations pour faire votre choix entre jetable et lavable, voire même ne pas choisir et tenter le mixte. Pour retrouver les ateliers en ligne et les accompagnements proposés par Marianne, rendez-vous sur son site internet www.mariannebretel.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.